Alors, sur ces images du Canada, toute saison, c'est comme les pneus toute saison. Ça passe partout, toutes les saisons. Vous avez du vert, du blanc. Bienvenue au Canada, bienvenue à Tam Tam Canada en direct de Montréal. C'est le vendredi, et comme vous le savez, le vendredi, que ce soit ici ou ailleurs, dans l'ensemble des écoles du monde entier, c'est la fête. Évidemment, parce que c'est la fin
de la... C'est la fin de la semaine.
Eh oui, c'est ça.
On va souffler un peu.
Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à nos collègues ici en studio. On a Maryse Jobin qui est avec nous.
Bonjour Stéphane.
Alice Chantal Chandem Cam...
Cam Gang.
Gang.
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Il fut une époque où je m'appelais Stéphane Bernard Parent. C'était pour me différencier de Bernard Parent, le hockeyeur bien connu.
Et entre-temps, vous avez changé de nom?
Il est disparu, alors moi, j'ai assumé le nom.
OK.
Mon nom.
Je comprends.
Oui, écoutez. Aujourd'hui, vous savez, la tradition, elle perdure. On a beau s'approcher de Noël. Nous, ici à l'émission, on a une tradition qui dure toutes les semaines de l'année. Mm-hmm. C'est le fait que vous ne connaissez pas le sujet de l'émission dès le départ.
Non, jamais, non.
Jamais. Des fois, oui, parce que vous espionnez. On vous a déjà vu.
Espionner?
Oui.
Ça ne fait pas partie de mon ADN.
C'était par hasard, c'était par erreur.
C'était par erreur. Ouais. J'ai entendu l'invité parler de l'émission avant le début. Oh. Voilà.
Voilà. Là, aujourd'hui, on a deux invités sur un sujet qui, moi, me fascine. Je suis sûr que je vais en apprendre. Alors ça, maintenant, à vous de jouer. On vous montre la vidéo 5 images. Tout le monde, ailleurs dans le monde, joue également. 5 images pour devenir le sujet aujourd'hui de l'émission. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident.
Ça se passe en Afrique.
Ça, c'est en Afrique, sur la corne de l'Afrique.
Ça pourrait se passer en Afrique.
Et c'est sûr que...
Attendez.
Le blackface ou... je sais pas moi.
Ça a quelque chose à faire avec le face, le visage.
Avec le visage.
Reconnaissance faciale.
Eh oui!
Biométrie faciale.
Comment vous cacher la vérité, voilà, la reconnaissance faciale. Oui. Puis il y a un thème bien précis par rapport à ça. Voici le thème. Les faces cachées de la reconnaissance faciale qui font sourciller. Parce qu'apparemment, on peut lire vos émotions grâce à vos sourcils. D'accord. Il y a un site web qui est consacré à ça et j'en suis sûr la technologie s'y intéresse également.
Mais là, qu'est-ce qui arrive avec le fait que maintenant, les gens font leurs sourcils un peu plus gros. Ah. Ou encore que peut-être dans certaines cultures, on ne sourcille pas de la même façon.
Ben, s'ils sont plus gros, vous êtes une plus grosse cible pour les policiers, c'est sûr. Et si vous sourcillez pas, vous avez des bonnes chances de vous faufiler.
Et pourquoi c'est si sûr?
Pourquoi c'est si sûr? Qu'est-ce qui est si sûr?
Ben, si les sourcils sont plus gros, on est plus facilement ciblé par la police.
Vous ne parlez pas des saucisses, là, mais des sourcils. Ouais, d'accord.
Alors là?
Oh, je ne sais pas. Écoutez, Marie s'est perdue.
C'est le vendredi.
Non, je sais, vous vous amusez.
Oui, on s'amuse. Là, trêve de plaisir. On y va avec notre premier tour aujourd'hui de la grosse boule, qui est consacré, bien sûr, à cet univers fascinant de la reconnaissance faciale. Et c'est un sujet qui intéresse tout le monde autour de la planète, j'en suis
tout
sûr,
à fait,
mais aussi les Canadiens.
Bien sûr.
Selon CBC News, donc selon le pendant anglophone de Radio-Canada, une enquête tout à fait récente, le mois dernier, au sujet de la reconnaissance faciale. Dites-moi, laquelle de ces affirmations est vraie? Vous avez le choix de réponse possible. A. Le service de police de Montréal l'utilise déjà. B. Le service de police de Montréal ne l'utilise plus. C. Le service de police de Montréal ne l'a jamais utilisé. Ou D. Aucune de ces réponses. Jusqu'à quel point vous en savez des choses sur la reconnaissance faciale autour de vous?
C'est moi, le fond d'emblée, de la question. J'hésiterais entre C ou D.
Alors, ne l'a jamais utilisé et aucune de ses réponses.
Moi, j'irais pour la réponse D.
D, aucune de ses réponses. Alors, quelle serait la réponse si c'est aucune de ses réponses? Quelle serait
Moi, je suis allée avec D aussi.
D aussi?
Oui.
Ah bon. Alors, écoutez, on va afficher la bonne réponse. Il
ça
s'agit
doit
de... Vous allez conserver ou perdre vos 20 boules sur le sang... sur le... Voilà, vous les conservez.
Yeah! On les conserve!
80 boules à jouer au fur et à mesure de l'émission dans les deux prochains jours.
On est toujours à ça.
100 boules au total. Vous avez conservé vos 20 premières boules. Voici la réalité, voici ce qui se passe. On a demandé à la police de Montréal, est-ce que vous l'utilisez ou pas? Ou est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Vous savez, comme les journalistes sont, ils n'osent pas poser de questions directement. Okay. Voici la réponse. Elle ne veut pas dire si elle l'utilise déjà ou non, cette technologie de la reconnaissance faciale. Elle ne veut pas dire.
Ben, qui ne dit rien, consent.
Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'à Calgary, ils l'utilisent. À Toronto, ils ont même eu un projet pilote lancé l'an dernier là-dessus. Ils l'utilisent. Ce n'est pas ces deux seules grandes villes canadiennes qui l'utilisent.
Vous savez qu'en Angleterre, c'est utilisé et ça commence à être controversé.
Ben, c'est là où ils ont beaucoup, beaucoup de caméras de tout surveillance. Tout à fait,
oui. La ville est surveillée 24 heures sur 24.
On va parler des caméras de surveillance, d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission.
Tout à fait.
Je pense que ça fera même l'objet d'une autre question de la grosse boule.
Ah oui? Bon,
oui, pourquoi pas.
Bon, ben...
On va inventer au fur et à mesure que cette émission avance. Je vais vous proposer ici, au sujet du service de police, j'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un problème qu'on partage à travers la planète. Là.
Okay.
Scotland Yard va présenter la vidéo numéro 2 prévue à l'émission. Ce que dit Scotland Yard au sujet des caméras et de la reconnaissance faciale par caméra, ils ont fait un rapport, ils ont commandé un rapport et ont conclu que la technologie utilisée par est inexacte à 81%.
Donc,
4 fois sur 5, on se trompe lorsqu'on dit « Ah, oui, c'est Monsieur Untel. »
C'est Monsieur Untel, okay.
Ou c'est Madame Chantal.
D'accord.
D'accord. Mais ça, c'est une étude parmi d'autres. Il y a d'autres résultats aussi.
Donc, ça fait partie des failles de cette technologie-là?
Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste. On va demander à Nadia Tsereoko de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, qui est spécialiste des technologies numériques, de nous aider, de nous éclairer. Bonjour, Nadia.
Bonjour, tout le monde, Stéphane.
Écoutez, j'aimerais savoir, moi, c'est la première question qui m'est venue ce matin en ayant cette statistique de ce rapport commandé par Scotland Yard. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas aussi précis qu'on veut nous le faire croire, cette reconnaissance faciale?
Bien, écoutez, la reconnaissance faciale, là, elle va être aussi précise que les bases de données qu'on a aussi pour comparer, pour voir les différents visages. Parce que la reconnaissance faciale, elle se fait quand on va mettre des points sur votre visage pour vous identifier, des points de lumière. Et là, ensuite, encore faut-il que votre visage soit dans une base de données, qu'il y ait d'autres visages pour comparer est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous. Et là, je pense que où on en est présentement, c'est... on ramasse beaucoup d'images en ligne, il y a des compagnies qui se spécialisent en ça pour éventuellement avoir suffisamment de données pour dire est-ce que c'est Stéphane ou c'est pas Stéphane, est-ce qu'on peut comparer, comment est-ce que l'intelligence artificielle là, qui est derrière ça peut aller faire des comparatifs puis déduire que c'est bel et bien vous qui est sur une photo ou une captation à partir d'une caméra.
Je lisais encore une fois ce matin, et je sens que mes collègues tripping veulent absolument vous poser une question, donc je prends les 10 secondes qui me restent.
Allez-y.
J'ai lu ça ce matin, 100 millions d'Américains sont présentement fichés par photo en ce moment. Même le président Trump a demandé, c'était une déclaration en 2017, c'est les grandes signatures qu'il met à la... Bon, c'était une déclaration présidentielle, il faut que tout soit fiché prochainement. Essentiellement, il veut que les services policiers soient tous connectés, ils aient des banques de données. Oui. Il va vite en affaires. Quelle est la situation au Canada au niveau du nombre de Canadiens qui seraient déjà dans une banque d'images prête à servir?
Je n'ai pas de chiffre exact, mais vous savez qu'il y a il y a des études qui se font présentement, même à partir, par exemple, de vidéos qui sont déjà en ligne, d'images qui sont déjà en ligne. On a vu tout récemment le cas, par exemple, des gens qui sont des militants dans différentes organisations pour les droits humains, qui se sont aperçus qu'ils étaient l'objet d'un fichage international. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on les fichait afin de pouvoir reconnaître des visages en mouvement. Parce que vous savez, vous reconnaître sur une photo, le fixe, c'est assez facile. Mais supposons qu'on a capté une vidéo sur une place publique où il y avait une manifestation, pour reconnaître les personnes qui sont là, il faut que l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, etc., qui fouillent dans les bases de données, soit capable de voir votre visage quand il est de trois quarts. Est-ce que c'est bien vous? Est-ce que c'est pas vous? Et c'est probablement pour ça que jusqu'à maintenant, c'est pas concluant encore là, ce qu'ils arrivent à faire. Je n'ai pas de chiffres pour le Canada. Il me semble que j'en ai pas vu. Je peux vous dire quand même que la technologie avance très rapidement et que la somme des documents qu'il y a en ligne sur les individus, des vidéos, des photos, etc., sur des personnalités connues aussi, aide énormément à constituer, si on veut, là, le pool de données qui va permettre éventuellement de vous reconnaître même en mouvement dans une foule ou de reconnaître une personnalité connue. 100 millions d'Américains qui ont un dossier, ça ne veut pas dire qu'on peut les reconnaître encore avec précision. Ça veut dire qu'on y travaille, par exemple. Quand on donne des chiffres, là, c'est qu'on a, disons, des dossiers à leur nom, on est en train d'essayer de les étoffer pour arriver à un taux de reconnaissance qui soit près du 100 %. Là.
Alice, qui est déjà affichée, aurait une question pour vous.
J'en sais rien, peut-être que je le suis. Bon, ben, j'allais vous demander, Nadia Serayoko, dans quelle mesure peut-on considérer que cette technologie-là porte atteinte aux libertés individuelles? On n'est pas toujours content de se voir ainsi capté au passage. Est-ce qu'on ne devrait pas tracer une réelle ligne de démarcation entre les enjeux sécuritaires et, je veux dire, ces libertés, les libertés publiques?
Vous posez une question qui est tout à fait à propos et qui, d'ailleurs, se retrouve beaucoup hein, quand on est en milieu universitaire dans les considérations qu'on a là-dessus. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que très souvent, ces initiatives-là, soit ne sont pas divulguées publiquement avant d'avoir des résultats, ou encore se font hein, par toutes sortes de compagnies de sécurité. Vous saurez que les caméras qui captent votre visage et qui peuvent, par des bases de données, vous reconnaître, là, puis dire, bon, ben, tiens, c'est Alice, justement, qui passait dans telle place publique. Ben, il y en a 200 millions d'installés en Chine. C'est un des grands vendeurs de ces équipements-là. Au Japon, on est aussi parmi les grands producteurs. Et il y a comme ça l'Israël aussi. Et tous ces gens-là, pour vendre leur technologie, doivent justement la tester. Et pour la tester, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils utilisent des photos, des vidéos, des bases de données et on s'aperçoit de plus en plus que ces bases de données-là sont souvent conçues à notre insu. En fait, quand vous parlez de droits et libertés, on s'imagine bien que si la technologie nous vient de Chine, hein, là où on a installé le crédit social puis on monitore les citoyens là, d'une façon inégalée, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite voir arriver au Canada. Tant et tellement qu'il y a des États américains hein, qui, eux, ont des lois déjà contre la captation à votre insu des données biométriques, c'est-à-dire votre visage, tout ce qui touche là, le fonctionnement biologique, etc. Parce qu'on a beau dire, hein, mais si vous pouvez changer votre numéro de compte de banque, votre visage, ça risque d'être un petit peu plus complexe hein, pour y arriver. Et là, c'est là qu'on en est, c'est qu'on est conscient que c'est une intrusion à la vie privée, que vous devriez être avisé, mais vous savez qu'il y a présentement dans des initiatives marketing, même au Québec, qui se sont faites où on capte les visages des gens pour analyser leurs émotions en marketing. Et là, les gens entrent dans un centre d'achat, ne savent pas qu'ils sont captés, mais il y a une petite pancarte quelque part qui dit « Hey, par ailleurs, vous savez qu'ici, on peut capter votre visage si vous regardez une vitrine afin de cumuler des données marketing sur les émotions des consommateurs. » Bien, tout ça, effectivement, hein, ce sont des petites entorses qui s'accumulent à notre vie privée. On ne s'en rend pas compte. Et puis, effectivement, tout d'un coup, vous êtes rendu fiché dans une base de données qui n'est peut-être pas effective à 100 %, et vous pourriez vous retrouver peut-être même mis en cause dans un crime ou quelque chose auquel vous n'avez aucune affaire, là, vous n'avez pas à voir. Donc moi, je trouve ça quand même très inquiétant. On ne laisserait pas ces cartes de crédit comme ça traîner partout. Mais notre image est de plus en plus utilisée à toutes sortes de fins sans notre permission.
Est-ce que ça veut dire que ce genre de fichage devrait faire partie de changements dans la loi pour le droit à la vie privée?
Présentement, je vous dirais, le commissaire à la vie privée s'est intéressé beaucoup aussi au fait que nos données en général, là, c'est-à-dire les données qu'on met sur Facebook, qui sont diffusées sur Google, qui sont captées par nos téléphones, souvent sont utilisées à des fins, hein, dont on n'a même pas soupçon.
Mercantile,
et même de surveillance, parce que ça, rappelez-vous, hein, j'ai deux beaux mots pour vous, Cambridge Analytica, hein, le scandale de captation des données sur Facebook, des données qui ont été réutilisées pour mener à bon terme l'élection de Trump ensuite. Toutes ces choses-là, hein, ces entorses-là de la démocratie se font souvent à partir de bases de données qu'on a cédé, je dirais volontairement, mais qui a déjà lu le contrat d'utilisation de Facebook ou d'Instagram ou de Google à cette fin? Pas de grand monde. Et à chaque fois que ça change, on est de plus en plus mystifié par les contenus de ça. Et le commissaire à la vie privée, c'était le premier pas qu'il faisait au Canada. Il disait, est-ce qu'on pourrait revoir ces contrats-là, s'intéresser à ça? Parce que présentement, les données des citoyens canadiens sont utilisées à toutes sortes d'usages marketing. Et on pense que ça dépasse vraiment là, la protection de ce qu'on devrait faire en termes de protection de la vie privée.
Professeur, on va poursuivre cette analyse des questions éthiques et morales liées à l'utilisation de ces technologies avec notre second invité dans quelques instants. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne votre domaine de spécialité, peut-être vous avez entendu parler de ça. Il y a eu un vol de photographies à la frontière américaine au début de cette année ou au printemps. Des milliers de fichiers de personnes, de photographies de Canadiens qui ont été volés, on ne sait pas trop par qui, à la frontière américaine, alors qu'on accueille les Canadiens avec sourire, évidemment. Et quels sont les échanges de données qui existent, ou les ententes d'échanges de données entre le Canada et les États-Unis, le Canada et la Chine, peut-être un jour, mais là, vous voyez, au niveau des échanges de données, moi, je pense que c'est là qu'il y a des vases communicants qui sont périlleux. Ça ressemble à des glissades.
Bien, écoutez, d'abord, on a toutes sortes de problèmes, je dirais, de technologiques qu'on ne voit pas toujours. Ces données-là, quand elles sont captées, pardonnez-moi, elles vont être entreposées sur des serveurs, souvent aux États-Unis, même quand on parle de Facebook, de Google. Et déjà là, c'est un premier problème. Quand on parle, pardonnez-moi, le rhume a été dur cette année à Montréal.
C'est pas fini.
Non, c'est pas fini, j'étais encore dedans. et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le problème déjà est là. Vous me dites, on vole des photos. Évidemment que ce qu'on oublie souvent, c'est que nos fameuses intelligences artificielles qui servent à nous reconnaître, hein, ce sont comme des enfants qu'il faut finalement nourrir, entraîner pour qu'elles grandissent puis qu'elles deviennent plus performantes. Et on les nourrit de quoi? On les nourrit de vos données, de vos photos, de vos vidéos, de vos données personnelles pour qu'elles deviennent plus performantes à reconnaître une personne. Quand on parle de reconnaissance faciale, il faut donc des bases de données très étoffées sur les types de personnes, les couleurs de peau, les types de visages, etc. Et là, les intelligences artificielles apprennent à tracer des parallèles hein, puis à nous, je dirais, saisir encore mieux. Et c'est pour ça qu'on va en entendre parler. Vous me parlez de ce vol-là, je pourrais vous parler justement de beaucoup d'autres dossiers de la même nature dans la dernière année. Et à chaque fois, quand on finit par trouver la source de ces vols-là, ce sont des compagnies qui généralement travaillent pour fournisseurs pour la défense dans des pays qui veulent utiliser ça à des fins soit d'espionnage ou encore de reconnaissance faciale de leurs propres citoyens. Fait qu'on est toujours dans ce paradigme-là, puis on ne le comprend pas bien encore. Comme citoyen, les gens ont encore de la difficulté à comprendre la valeur que peut avoir leur visage. C'est pas juste pour me reconnaître, moi, qu'on veut mes photos. C'est aussi pour justement garnir ces bases de données-là, les étayer, puis pouvoir ensuite effectuer plus efficacement des tâches de reconnaissance, des tâches de ciblage des citoyens et des tâches de surveillance aussi à des fins souvent, là, je dirais, de coercition dans certains pays, puis tout ça. Puis là-dessus, bien, le Canada, souvent, on essaie de rester neutre, mais là, comme je le dis, présentement, au moment où on se parle, nos données sont déjà sur des serveurs américains en très grand nombre.
Et justement, j'allais poser la question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas pertinent, est-ce qu'il ne serait pas temps que le Canada crée son propre système infonuagique pour stocker les informations privées des Canadiens et faire en sorte que ce ne soit plus totalement exposé à la merci de certains gouvernements étrangers?
Je pense que c'est effectivement là qu'on devrait aller. Déjà, je sais que le gouvernement canadien a beaucoup de serveurs, etc., pour entreposer nos données, parce que là-dessus, ils sont assez prudents. Là, quand on va dans chaque province, vous pouvez avoir des fonctionnements différents. Certains vont même choisir, au Québec, on a ce conflit-là interne présentement, le gouvernement suggère de prendre une solution américaine pour entreposer les données des Québécois. Et ça nous dérange comme experts du numérique. Moi, ça me dérange énormément.
Énormément, oui.
Oui, parce que déjà, quand c'est sur un autre territoire, c'est soumis à d'autres lois potentiellement. On ne peut pas influencer à ce moment-là ce qui va se passer là. Si cette compagnie-là décide de se rebrander autrement, hein, puis de fermer boutique, qu'est-ce qu'on fait? Nos données sont toutes là, tout est entreposé là, comment est-ce qu'on les récupère? Donc, on a intérêt, oui, d'abord en plus, d'un point de vue strictement économique, hein, développer de l'expertise canadienne, puis des services canadiens, ça ne peut qu'être à notre avantage. Et en plus, de ça, ben, côté sécurité, ça veut dire que des organismes comme le commissaire à la vie privée, comme nos gouvernements, les organismes qui ont juridiction ici vont pouvoir décider peut-être même à enfin faire comme certains pays et se doter d'une politique sur la gestion des données comme le Règlement général de la protection des données en Europe. Et là, tout d'un coup, hein, on serait maître, je dirais, chez nous au Canada de nos données et on pourrait peut-être même se dire, ben là, on ne veut pas que les données des Canadiens soient utilisées à telle fin. enfin, que vous fassiez telle ou telle chose, on aurait plus de latitude pour justement protéger nos données et éduquer les gens ici sur comment gérer nos propres données.
Là, Durand, on a finalement presque on a accumulé beaucoup d'informations concernant votre visage jusqu'à maintenant, donc ça va. Mais...
Oui, j'essaie de vous en montrer le plus possible.
Hein? Oui. C'est très bien. On a une dernière question pour vous.
Oui, en fait, jusqu'où devrait-on faire confiance? Parce qu'on, enfin, c'est une relation de confiance qui devrait exister normalement entre le gouvernement du Québec et ces géants du web basés aux États-Unis qui stockent nos informations. Ben, j'ai discuté avec quelques représentants de Google et d'Amazon qui me disent, ben, c'est une question de confiance. On n'est pas prêt à divulguer les informations comme ça au gouvernement américain. Est-ce qu'on devrait effectivement faire confiance à ces géants-là, à ces compagnies-là?
Je vous dirais que, bon, d'abord, on a déjà le doigt dans l'engrenage, pour pas dire qu'on a le bras pris jusqu'à l'épaule la plupart du temps dans ces choses-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour dire qu'on a vraiment une relation de confiance, donc il y a eu plusieurs brèches à cette confiance-là, surtout quand on regarde du côté de Facebook avec, par exemple, le fameux scandale Cambridge Analytica et de multiples fuites de données. Donc, rien n'est parfait. Et pour parler d'une relation de confiance, il faut qu'on puisse négocier, je dirais, d'égal à égal. Et ça, c'est très difficile parce que ce sont des géants, pour pas dire des titans, du numérique et de l'économie numérique. Et là, moi, je me dis, la seule façon de le voir, c'est le Canada étant un pays qui a quand même où les citoyens ont chacun, je dirais, bénéficié d'un budget annuel, etc., fort intéressant pour ces compagnies-là. On devrait, oui, effectivement, négocier plus. J'apprécie énormément quand les gens, par exemple, que ce soit M. Legault Québec ou nos dirigeants au palier canadien, vont les rencontrer pour négocier parce qu'on n'aura pas le choix. Mais négocier, ça vaut aussi demander des choses en retour. Et là, on n'a pas demandé grand-chose jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment un point où il faut vraiment se dire, quand l'Europe a décidé de mettre le Règlement général sur la protection des données en vigueur en mai 2018, ils n'ont pas attendu, je dirais, l'approbation des géants du web. Et les géants du web commencent tranquillement à organiser leur règlement, leur contrat de gestion avec nous, leur contrat d'utilisation, pour satisfaire l'Europe, donc en l'uniformisant un petit peu ailleurs. Fait que ça veut dire que quand ils n'ont pas trop le choix, ils commencent à considérer des solutions alternatives, donc nous fournir plus de données sur comment gérer nos données, justement, comment protéger mieux ce qu'on met en ligne. Fait que c'est un peu à nous comme État, finalement, d'aller les rencontrer puis de dire, bon, OK, voici le nom. On a presque 40 millions de personnes, là, puis il y en a plus de 80% qui utilisent vos services. On va se parler puis on va essayer de faire les choses. C'est ça, là, c'est cette proactivité-là, je pense, que les États vont devoir développer de plus en plus.
Professeur Sayoko, c'est entendu, il n'y a pas de problème. Vous avez l'emploi, vous allez être négociatrice, c'est promis.
J'aimerais tellement ça.
Ça sent, c'est vrai que vous seriez bonne dans ce rôle-là.
Ben oui, c'est sûr.
Vous êtes excellente aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre science et vos informations aujourd'hui. C'était très apprécié. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée à tous.
Quelque chose me dit que les étudiants doivent avoir du plaisir, même les lundis avec elle.
Oui. Franchement. Ouais.
Écoutez, on est prêt pour l'action en studio. On a encore des boules à perdre ou à gagner, ou à conserver.
À conserver, surtout.
30 boules dans ce deuxième jeu sont en jeu. Voici la question, on l'affiche pour le plaisir et le bonheur de tous. Deuxième tour, voici la question. Selon un sondage Visa, donc l'émetteur de cartes de crédit, quel pourcentage des consommateurs canadiens veulent passer, sont prêts à passer à la biométrie, donc à l'utilisation des informations dans le visage, dans les yeux, dans les sourcils, dans les empreintes digitales, pour que ça aille plus rapidement à la caisse?
C'est une question de fiabilité. À partir du moment où il y a des failles...
Ouais. Alors, quel pourcentage des Canadiens sont prêts à le faire?
Pour le plus faible possible,
6%.
Entre 6 et 36%.
C'est entre les deux, d'accord. Mais il n'y a pas de A bis, il y a A, 6%, B, 36, C, 56 ou D, 86. Bonne réponse, c'est?
B.
B pour Chantal,
moi,
B
je vais aller
pour C.
Avec A, 6%.
A pour M, pour Maryse, 6%. On affiche la bonne réponse, tout le monde. Moi, je ne m'en souviens plus. Ah,
86%!
Voilà, 86%.
Oh, c'est étonnant.
Je trouve que les gens font beaucoup confiance aux géants.
Ah, ils sont prêts à le faire.
La technologie. Mais...
Voici les résultats en détail. Je trouve ça fantastique, moi. Enfin, très intéressant comme journaliste.
Moi, je trouve ça plutôt étonnant.
De 6 à 10 % des consommateurs canadiens connaissent déjà la biométrie, à quoi ça ressemble. Donc, ça les inquiète plus ou moins. 86 % des consommateurs souhaitent l'utiliser pour vérifier leur identité, éviter d'avoir des problèmes de mot de passe. C'est okay. une bonne chose à leurs yeux. 65 % pensent que la biométrie est plus facile à utiliser que tout le reste. Et 44 % croient qu'elle est plus sécuritaire que l'utilisation, évidemment, des mots
plus
de passe.
Plus facile, mais beaucoup plus invasive et dangereuse.
Ah, écoutez, vous soulevez des questions intéressantes. On va les poser à notre expert en éthique. Et conseiller à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, il s'agit de David Rochelot-Houle. Monsieur Houle, bonjour. Rochelot-Houle, bonjour. Alors, vous avez entendu notre invitée précédente qui vous a grugé un peu de terrain, qui a déjà mis la table en parlant d'une entente qui a été établie en Europe en 2018, que le Québec, que le Canada ferait bien d'adopter ce genre d'entente-là. Au niveau de la réflexion, des réflexions de votre commission, puisque les choses au plan technologique avancent vite et les lois avancent, c'est leur nature un peu lentement, où en est la discussion au sein de votre comité, de votre conseil?
La discussion en est encore au début par rapport à la réflexion spatiale, mais spatiale soulève des enjeux que d'autres technologies de production soulèvent aussi. Donc, même si à propos de cette technologie en particulier, que on a déjà une réflexion qui est bien avancée par rapport aux autres technologies de surveillance. Madame Sarayoko a déjà soulevé des enjeux, par exemple la vie privée, qui n'est pas seulement c'est aussi un aspect légal, la vie privée, mais qui va aussi, on peut aussi comprendre la vie privée comme étant une valeur, c'est-à-dire le respect de son intimité en tant qu'individu et aussi le droit de vivre sans avoir le sentiment d'être constamment épié, qui pourrait être le cas si, par exemple, en réflexion spatiale, on pourrait être constamment épié. La réflexion spatiale était un système qui était utilisé à grande échelle. Donc ça, c'est un des enjeux éthiques importants par rapport à la réflexion spatiale. Un autre des enjeux éthiques, on l'a aussi évoqué brièvement, qui est celui du consentement. Notre rôle en tant qu'individu, notre capacité de consentir l'utilisation d'un système de reconnaissance faciale. Donc, vous donnez l'exemple plutôt d'un centre commercial ou d'un centre d'achat qui pourrait utiliser un système de reconnaissance faciale, un objectif de marketing, mais sans nous avertir en tant que consommateur de manière explicite et aussi sans demander notre consentement explicite, alors que celui-ci devrait être explicite, éclairé, manifeste et donner à des fins
spécifiques. On va écourter cette entrevue à moins de pouvoir avoir un meilleur son. Ça nous parvient tout assuré. On a beaucoup de progrès à faire au niveau de l'image, je sens ici, quelque part, au niveau de la technologie Skype. Je ne sais pas si on peut ajuster. Vous aviez une question pour notre invité?
Oui, on parlait tantôt de 86 % des Canadiens qui aimeraient faire appel à la biométrie pour des questions de sécurité. Comment justifier une telle popularité compte tenu des enjeux négatifs qui sont soulevés?
Je pense que ce qui vient justifier une telle popularité, c'est certainement le fait que c'est beaucoup plus facile pour les consommateurs d'utiliser dans cette situation des données biométriques. Par exemple, beaucoup plus facile de déverrouiller son téléphone cellulaire en utilisant son visage, en utilisant un mot de passe. Et ce qui est difficile en tant qu'individu, c'est de réaliser les risques qui sont parfois éloignés de nous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un risque de surveillance, mais pour un individu vivant au Canada, ce risque de surveillance est encore... Alors que dans tous les jours, il considère qu'il va gagner là, des avantages mettre à que ces données biométriques soient utilisées.
Très bien. Ben là, on va peut-être écourter cette conversation puisque on comprend le sens général de ce que vous avez à dire, mais je pense
on perd beaucoup de mots.
Au niveau de la qualité sonore, on perd beaucoup.
Oui. Donc, ça arrive une fois de temps en temps. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est ajouter un hyperlien qui mène vers votre conseil pour que les gens puissent aller chercher de l'information sur ce que vous faites actuellement pour essayer de baliser l'arrivée de ces technologies.
De cette technologie-là.
Et peut-être le réinviter à un autre moment.
Oui, certainement. On va trouver un moyen de refaire quelque chose avec vous éventuellement. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, c'était Marc-André Deschamps. Pardonnez-moi. C'était David Rochelot-Houl. J'ai de la difficulté avec les noms composés hein, depuis quelques temps. Je ne sais pas si... il y a Alice Chantal, Chandem, Kangan.
Ça finit par bien aller, dans tous les cas.
Ce que je trouvais intéressant dans ces conversations qu'on a eues avec ces deux invités, c'est que les consommateurs sont déjà intéressés, curieux.
Mm-hmm. On leur vend la facilité. Ouais. Mm-hmm. C'est un faux sentiment de sécurité. Parce qu'en réalité, le consommateur est obligé, lui, de faire les démarches.
Numéro 6, vidéo.
Est obligé de faire les démarches pour essayer de s'enlever de ce système-là. Et c'est là qui est le problème, d'après moi.
Et j'aimerais bien aller comprendre c'est quoi le profil des personnes qui sont favorables à cette technologie. On parle de 86% des Canadiens. Ben, qui sont-ils?
En général, c'est souvent
Est-ce que c'est des gens qui sont outillés pour comprendre vraiment les enjeux qui s'y rapportent?
Ça, c'est une vidéo de ce qui se passe en Chine, présentement. Vous faites votre épicerie. Il n'y a personne dans le magasin. Tout se fait par caméra. On vous reconnaît, on sait qui vous êtes. Parce que ce n'est pas la première fois que vous y allez.
Il n'y a pas de caissière, il n'y a personne.
Puis si vous volez, on le sait tout de suite, parce qu'on le voit, les caméras sont partout. Je sais pas, ils ont montré 63 caméras à l'intérieur de l'établissement. Vous pensez que ça, c'est le futur, c'est le présent en Chine, et ça pourrait être le présent au Canada?
Mais ça commence d'ailleurs, je l'ai vu dans quelle épicerie encore?
Il y en a une, mais il y a eu un projet dans l'épicerie métro au Québec.
Oui.
Je pense qu'il y a eu...
Je crois que c'était là, si je
ne
me trompe pas.
Mais ça a été une mauvaise réaction quelque part.
Et là, la grande question... On parle d'économie, on parle de consommation. Est-ce qu'il y a des moments de la journée où s'il y a plus de gens, on peut charger plus cher? Selon le profil, selon la façon dont la personne est habillée.
Les prix dynamiques, quoi, c'est ça?
Eh oui.
Ah bon.
On pourrait changer le prix, parce que c'est électronique, et charger plus.
Moi je change le prix en fonction du visage. Si je dois approcher, je baisse les prix.
Parce que... je veux dire, les prix ne peuvent pas changer comme ça, là.
Ah oui, tout à fait.
Ben en fonction du consommateur qu'on a en face de
chat. Monsieur Intel fait 60 000 $ par année, augmente les prix.
Oui, dans certaines épiceries, il y a déjà des affiches électroniques pour les prix. Qu'est-ce qui vous dit que le prix n'a pas changé dans la dernière heure?
Oui. Au moment où vous avez mis les pieds dans l'allée.
Ça, c'est curieux que les prix puissent changer en fonction du client qu'on a.
Mais moi, je pense que c'est une idée qu'il faut absolument mettre un copyright dessus.
Alors là...
Je parlais à mon ami Trump.
C'est assez bizarre.
Mais il y a une épicerie, une chaîne d'épicerie en Toronto, Markham, c'est pas loin de Toronto, un propriétaire d'épicerie, qui veut étendre ça à tous ses magasins, et il en a plusieurs, les épiceries, et... Le problème, c'est que ça fait sourciller beaucoup de gens parce que c'est un copain du gouvernement chinois. Et lorsqu'il y a eu des manifestations à Hong Kong, il était contre le mouvement étudiant.
D'accord.
Et donc, est-ce qu'il y a une association ici? Parler des gens qui sont plus susceptibles de vouloir adopter ce genre de technologie.
Alors, est-ce qu'il va falloir se promener comme à Hong Kong avec un genre de fichu sur le visage?
Pour ne pas se faire reconnaître.
Mais ne riez pas. Ça pourrait arriver.
Troisième jour, on rit, on a trop de plaisir. Troisième tour de la grosse boule. Alors, voici. 50 boules à perdre. Vous avez perdu combien de boules? Premier
Moi,
tour,
j'en ai pas... perdu... On en a perdu 30.
Toutes les deux.
Toutes les deux, 30.
Alors, on est à 70. 100,
donc, on est rendu à 70, oui.
Donc, là, 50 boules à perdre. Bon. Mais on sait que vous allez au moins finir avec 20 boules, chacun. Chacune.
Oui, parce que là, il y a juste les filles qui répondent.
Les boules, c'est féminin, c'est vrai. Okay.
Voilà.
Voici, troisième tour.
Oh, que j'ai failli faire une blague là-dessus. Pourquoi, me retiens.
Pourquoi vous vous retenez?
Et là, il y a des techniciens qui rient de l'autre côté.
En tout cas, plusieurs scénarios sont possibles ici. Combien y a-t-il de caméras de surveillance dans le monde? Je pense qu'une de nos invités vous a donné une piste un peu plus tôt. Est-ce que c'est A, 50 millions? Est-ce que c'est B, 150 millions? Est-ce que c'est C, 250 millions ou est-ce que c'est des 350 millions? Bonne réponse?
Aucune de ces réponses.
Mais ça n'existe pas.
Il n'y a pas de...
Allons-y avec 350 millions.
Moi aussi, je vais dans la même direction.
On affiche la bonne réponse pour tous et chacun.
Parce qu'il me semble qu'elle a
seulement à Londres,
300.
On n'a plus que ça.
Et voilà!
Yes, on a conservé nos boules.
C'est alors, un bon score. 70 pour les deux.
Yes.
Ouais. Il y a 350 millions de caméras de surveillance dans le monde en date de 2016. Ça a augmenté un peu depuis.
Un peu plus, OK.
Et puis 65% de ces caméras étaient installées en Asie.
Ah, parce que c'était la question que j'allais vous poser.
Oui.
Sont-ils principalement en Chine?
La réponse est oui.
Ah, voilà.
100 boules pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux gagner des boules, moi aussi, à mon émission.
Mais oui, tout à fait.
Oui. Mes boules m'appartiennent. Et puis voici. Quoi?
Okay. L'image de la semaine.
Prochaine question.
Prochaine question. On n'a pas fini. On est pressé. Hein?
Non, vous allez trop vite. Il reste encore un peu de plaisir. La vidéo numéro... Attendez-moi. Okay. Je sais que ça déboule vite à cette émission, mais quand même. Numéro 7. Pour en savoir plus sur le sujet traité aujourd'hui...
On va sur le site web.
On a trouvé des articles qui sont de Zuber Jazzy, notre expert en questions technologiques à la station. Okay. Puis on a aussi trouvé des reportages, des entrevues faites par vous deux. On va regarder.
Ah oui? Bon, on va aller voir.
Si vous pensez que vous êtes l'auteur d'un des articles qui apparaît sur la page, ou vous, ouais, vous criez parce que personne ne va vous voir lever la main.
Ça, c'est les épiceries canadiennes.
La première,
c'est
oui,
moi.
On dirait c'est Stéphane.
Dans le métro, payé en montant.
Non, c'est pas moi. Non. C'est peut-être Stéphane.
Le FBI détient des photos sur 412 millions d'Américains et étrangers. Je ne sais pas, mais ça me dit quelque chose. Zuber Jazzy, je pense.
Peut-être, oui.
Ouais. Puis on va descendre.
On va descendre. On va monter où?
On ne monte pas. Nous, on descend.
Le texte monte, en tout cas pas.
Quelque chose sur la reconnaissance faciale à l'aéroport. Okay. Ça, je pense que c'est de vous, Alice.
À l'aéroport, c'est pas moi.
C'est pas de vous?
Non, peut-être c'est Zoubé.
En tout cas, c'est à consulter pour vérification, pour ceux que ça intéresse, les reportages récents de Radio-Canada International là-dessus. Super. Et oui, on est prêt pour l'image de la semaine.
Bon.
Je réponds seulement par
l'image de la semaine.
Ah oui, c'est vrai.
Seulement par où ou par non? Cette fois-ci, c'est juré, je réponds seulement par où ou par non.
Est-ce que ça se passe au Canada?
Non, pas vraiment.
Aux États-Unis?
En partie.
En lien avec un magazine?
Peut-être.
Le visage de Greta Thunberg sur le magazine
et
Donald Time?
Et quoi, Donald Trump?
Et Donald Trump.
Une chance qu'elle est là pour compléter la bonne réponse.
Ah oui, c'est Donald, OK.
Voici la vidéo qui nous montre l'image de la semaine. En fait, il y en a deux images. Il y a d'abord celle de Greta.
Ah, voilà.
Voilà.
Qui est la
dans son coton ouaté.
Oui.
Ensuite, Donald, qui aurait aimé être à sa place.
Ouais, et on l'a mis à sa place.
Ah oui,
c'est son équipe qui a fait ça. C'est son équipe. Son équipe électorale qui a fait ça.
Ah, il a l'air bien dans son coton ouaté.
Ouais. Je crois que c'est par rapport
à... Il a perdu du poids.
C'est par rapport à une déclaration qu'il a faite au sujet de Greta.
Ouais.
Il lui a dit qu'elle ferait mieux d'aller regarder un film avec ses amis.
Yeah, chill.
Ouais.
Yeah.
Mais lui aussi, il devrait chiller une fois de temps en temps. Ouais.
Alors voilà, ça c'est la seule fois où il est apparu sur le Time Magazine.
Non,
il y a eu plus qu'une fois, mais jamais grande personnalité de l'année.
Mais vous remarquez qu'il n'y avait pas de photo de lui en première page.
Non?
Il tenait le Time,
ouais.
Mais il n'y avait pas de photo de lui.
Non, du tout.
Okay. C'est dommage, c'est encore un des fleurons qui lui manque.
Il n'est pas la personnalité de l'année, mais on parle de lui tout le temps.
Ouais.
Ouais, pourquoi en rajouter, moi je dis, c'est tellement ça. Évident. Pourquoi souligner les choses en rouge lorsqu'elles sont noires et orange? Et puis, toutes les couleurs du monde. Voilà.
Eh oui.
Pas de commentaires? Ça va?
Mais là, il faudra se demander si M. Johnson en Angleterre et M. Trump aux États-Unis ont le même coiffeur ou la même coloriste.
Ah, ben écoutez...
Non, mais je ne parlerai pas de leur trait personnel.
Ouais, pourquoi?
Si vous voulez, on peut parler du Brexit.
Moi, je pense qu'on devrait parler de politique plutôt que de l'accoutrement.
Ouais. Hein? C'est
pas sérieux, les accoutrements.
Bon, ben, Boris Johnson va pouvoir amorcer le processus de sortie de l'Union européenne.
Ouais. C'est fait.
Après le vote majoritaire...
Ouais. Si on avait encore des doutes, ça y est. L'Angleterre n'appartiendra plus jamais à l'Europe.
Fini. Finalement, on croit que la boucle est bouclée.
Ouais. Il y a une question de que ça appartienne éventuellement à l'Amérique du Nord. Moi, je pense que c'est une bonne idée. L'Angleterre faisant partie de l'Amérique du Nord. Géographiquement, c'est très rapproché, tout ça. Hein?
Peut-être par rapport aux liens historiques avec le Canada.
Oui, absolument. C'est quand même nos cousins de l'autre côté.
Êtes-vous en train de dire que l'Angleterre deviendrait une colonie du Canada?
Peut-être
à une époque, c'était le contraire.
Peut-être au siècle prochain.
Tout est possible dans ce brave nouveau monde, grâce aux technologies.
Bon, mais c'est pour rire, hein, parce que la colonisation est terminée. Là.
Ouais.
C'est fini.
Écoutez, avant de casser la boule, on va se dire au revoir. On ne va pas casser la boule.
Au revoir tout le monde.
À la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est notre dernière émission de la saison 98.
Avant les fêtes de fin.
98e saison de Radio-Canada International sur le web.
Oh, wow.
Ouais.
Ça va vite.
Oui, très vite. On se conserve bien, hein, je trouve. À la semaine prochaine.
Bye.
Au revoir.